Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
L'heure de la réconciliation nationale est à l'ordre du jour. Tous les Nigériens doivent désormais savoir que la survie du pays dépend de notre capacité à tous de transcender les considérations d'ordre politique, de notre capacité à nous tous d'oublier nos querelles et de notre commune volonté d'atterrir nos ressentiments pour travailler ensemble dans la sécurité et l'intérêt supérieur exclusif.
Arrivé à la tête du Niger à la suite de la mort du président Sani Kouché, le colonel Ali Chebou a décidé de décrisper le climat politique et social, d'en finir avec la tension qui a symbolisé la fin du régime de son mentor et prédécesseur. Amnistie générale, appel au retour des réfugiés, réhabilitation des anciens opposants en exil.
En ce qui concerne le Conseil militaire suprême, je puis vous assurer que nous n'avons plus de haine contre quiconque. Nous n'avons plus de contentieux avec qui que ce soit. L'amnistie prononcée n'a d'autre signification que cela. Et nous sommes sincères. Mon souhait le plus vite est que les Nigériens qui se sont expatriés pour des raisons politiques rentrent au bercail et s'attellent à des tâches plus constructives pour le Niger. L'amnistie concerne aussi les étudiants qui, par suite des grèves, se sont réfugiés dans les pays voisins ou ailleurs.
Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée au général Ali Chebou.
Vous savez que Yoli a fait son temps. Si nous l'avons renversé, ça ne veut pas dire que nous lui enlevons toutes ses qualités. C'est quand même un chef d'État qui a été respectable et qui avait fait beaucoup pour le Niger. Donc je trouve que c'est des citoyens qui ont de l'expérience et que il n'y a aucune honte à se référer à leur expérience du moment que ça amène une contribution efficace au pays.
En ce début d'année 1988, le nouveau président du Niger a décidé de mettre un terme au climat de tension qui a régné dans son pays depuis 14 ans. Au-delà de la libération des prisonniers politiques, il veut faire revenir les Nigériens en exil au bercail, comme il le dit. Ce que le régime parfois violent et particulièrement dur de Sani Kouché a souvent écrasé. Même l'ancien chef de l'État Diori Amani, renversé 14 ans plus tôt dans un complot dans lequel Ali Chebou participait, salue la nouvelle option politique du président.
Je crois que l'opinion nigérienne a eu le temps de comparer la gestion du Niger de 1958 à 1974 avec la gestion de M. Sani Kouché et de ses camarades. Et je pense que le seul fait que Ali Chebou et penser que l'union sacrée était la première nécessité dans ce pays, c'est qu'il reconnaît qu'il y a les mêmes problèmes.
Le nouveau chef de l'État, s'il se démarque de la méthode de gestion du pouvoir de son prédécesseur Sani Kouché, s'inscrit dans la continuité en matière d'économie. Il a la même obsession, l'autosuffisance alimentaire, une véritable gageure dans ce pays désertique. Il va même prendre l'engagement, je cite, qu'aucun Nigérien ne mourrait dorénavant de faim, même s'il faut pour cela y consacrer toutes nos ressources budgétaires. » Fin de citation. Sur la question, il n'a vraiment pas changé les habitudes, les réflexes de l'ancien ministre responsable de l'aide aux populations.
Le secteur agricole, pour nous, constitue une priorité. Et évidemment, il ne faut pas négliger les autres secteurs, tels que la santé, l'éducation, la culture. Mais je crois que la priorité, parmi ces priorités, reste l'autosuffisance alimentaire. Et pour cela, nous mettrons tous les moyens nécessaires pour y parvenir.
Mais si la priorité pour Ali Chebou est l'autosuffisance alimentaire, il n'entend pas pour autant céder de suite la place aux civils. Pour lui, le rôle de l'armée est central. Cela ne souffre d'aucun doute. Il le réaffirme lorsqu'il célèbre le 14e anniversaire de la prise de pouvoir de Séni Kounché.
La réflexion sur la constitution se poursuivra donc, en s'efforçant d'explorer les différentes dimensions d'une normalisation que nous voulons durable et sereine. Mais d'ores et déjà, nous rejetons sans appel le principe du multipartisme au Niger. Comme nous affirmons irrévocable la présence des militaires dans l'appareil politique et administratif. Car nous aspirons sincèrement à un régime de stabilité et d'intégration entre toutes composantes de la nation. Parce que nous voulons une synergie des intelligences et des forces qui s'inscrivent dans le sens de l'intérêt supérieur du Niger. C'est précisément pour cette raison qu'il importe que notre Constitution consacre le principe d'un régime présidentiel au Niger, c'est-à-dire le régime d'un exécutif fort, investi de l'autorité et des prérogatives nécessaires à l'exercice d'un pouvoir générateur de stabilité, de paix sociale et de prospérité.
Le colonel Ali Chebou, qui arrive au pouvoir au Niger en ce mois de novembre 1987, prend aussitôt le contre-pied de son prédécesseur. Il décide de libérer immédiatement tous les prisonniers qui croupissaient dans les prisons du pays. Ali Chebou.
Pour décrisper, comme on l'a dit, il fallait vraiment redonner la chance à chacun. Donc sortir de prison tous ceux qui ont été, pour ce motif, transférés là-bas.
Ali Chebou est certes un proche de Kounché, mais il veut, malgré sa fidélité à son prédécesseur, ramener la paix, calmer les esprits, en finir avec les tensions. Ali Chebou préfère jouer la carte de l'apaisement. Son style tranche singulièrement avec celui de son rigide et austère prédécesseur. Amateur de chair, cet homme rond et jovial n'est pas vraiment un fidèle de la mosquée les vendredis. Ce président débonnaire ne refuse jamais un verre et la bonne compagnie. Lieutenant Midou Koudou, un de ses amis et collaborateurs.
Ah oui, ça, il veut bien manger les bonnes choses.
Quand vous dites manger les bonnes choses, il aimait aussi un peu l'alcool.
Ça, évidemment, ça s'accompagne. Hein, on ne peut pas manger sans pouvoir digérer avec un peu d'alcool. Ah oui, nous, on ne boit pas comme ceux qu'on n'est pas des soulards. Hein, on n'est pas des ivrognes. Et on se distrait un peu, c'est-à-dire que ça nous ouvre un peu l'esprit militaire, et si vous voulez, ça nous anime à faire du palabre.
À faire du palabre. il n'y avait pas que l'alcool, il y avait aussi les femmes. Hein?
Oh, mais écoutez, vous n'avez pas à me demander ça, dans toute armée au fond. Et je me rappelle quand je faisais ma formation de moniteur d'éducation physique aux parachutistes, eh bien, on avait décrit comme ça, comme on dit, le sport, on dit c'est bien, les femmes, c'est mieux, comment, à poil. Alors, on avait ces formations-là, eh bien, qui s'approchent justement pour pour avoir de l'esprit.
Autant Séni Kounché était sec et nerveux, autant Ali Chebou est bon vivant, de contact facile et volontiers loquace. Deux épouses et 18 enfants, les Nigériens le considèrent comme un père. Et c'est très certainement pour cette raison que, paradoxalement, malgré son impressionnante progéniture, il s'attaque, dans ce pays de forte tradition musulmane, à toute occasion à la question de la limitation des naissances. Il recommande d'avoir moins d'enfants, même si, je cite, « je suis mal placé moi-même pour donner un tel conseil ».
Dans un pays très pauvre, avec une croissance démographique galopante, il y a des mesures à prendre. Certes, nous sommes un pays musulman, mais nous avons quelque chose de spécifique au Niger, c'est que nous sommes un peuple non seulement laïque, mais un peuple tolérant. Dans le gouvernement, nous avons une femme qui est chargée de la condition féminine et des affaires sociales. Nous avons pris un décret qui autorise l'espacement de naissance et l'interruption volontaire de naissance. Donc je crois que la religion ne constituera pas un frein au Niger pour ces mesures à prendre.
Courageux. 2 août 1988, le général Ali Chebou, poursuivant le processus entamé par son prédécesseur Sini Kountché, crée le Mouvement National pour la Société de Développement, le MNSD, qui devient le Parti État.
Si vous voulez, prenez-le comme parti. Dans tous les cas, nous avons opté pour un mouvement.
Donc il n'y aura pas de parti, le mot
parti. Il n'y aura pas d'autre parti que ce mouvement dans lequel nous appelons toutes les sociétés. Donc il y a toutes les forces composantes des sociétés socio-professionnelles qui doivent s'exprimer librement au sein de ce mouvement. Donc c'est une intégration des Samarias, des associations islamiques, des associations de l'USTN, ainsi de suite. Donc c'est une adhésion à ce mouvement volontaire. Si vous le prenez comme parti, disons, c'est un parti, mais nous ne voyons pas le mot parti. Nous voyons un mouvement, c'est plus facile à manipuler qu'un parti où les gens ne passeront que leur temps à discuter, à se quereller.
Le MNSD, parti ou mouvement, est le seul cadre politique vraiment légal. Pas question de multipartisme, précise bien le président Ali Chebou.
Un mot que je ne connais pas, le multipartisme. Je pense que pour les jeunes pays africains, nous avons beaucoup de choses à faire que de passer notre temps à créer des partis à droite, à gauche. Nous avons vécu avec un parti. Mais au sein de ce même parti, il arrivait que des frères ou des sœurs issus du même père et de la même mère ne se parlent même pas à cause du parti. Donc, si vous créez 2 ou 3 partis, nous allons perdre notre temps, qui est le développement, qui est l'intérêt de la population. Donc, il n'y aura pas d'autres partis au Niger. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire.
Autre conviction forte d'Ali Chebou à cette période, le rôle clé de l'armée dans la gestion de l'État, de la chose publique. Pas question d'y toucher, c'est sacré. Elle est la garante de la stabilité.
Au Niger, la présence de l'armée à côté des civils s'est révélée une nécessité. Et cela est compris dans la charte que nous avons tous adoptée. Les civils ne voient aucun inconvénient à ce que l'armée, qui est quand même une structure bien adaptée, participe à l'édification du pays. Il est bien dit dans la charte que c'est une participation volontaire de tous les fils du pays. Et je crois que l'armée ne fait pas exception. L'armée n'entravera pas la démocratie. Je l'ai dit et je le répète, la présence de l'armée au sein du gouvernement, au sein de l'administration est irréversible. Et ce n'est pas une démagogie. Ceci est bien compris de la population nigérienne, donc on ne prête aucune interprétation.
Effectivement, un an plus tard, plus précisément le 24 septembre 1989, la constitution de la Deuxième République est adoptée. Même si la récente chute du mur de Berlin commence à susciter un peu partout dans le monde des changements politiques notables, ici le ton ne change pas vraiment. Toujours pas question de multipartisme.
Pour l'instant, il nous faut démarrer avec quelque chose qui correspond à nos réalités. Donc nous pensons qu'avec ce mouvement qui correspond à notre souci de développement, nous pouvons faire déjà un pas en avant avant de changer au multipartisme. Donc le multipartisme peut avoir sa place au Niger, mais pour l'instant nous démarrons avec le mouvement.
Le 10 décembre 1989, Ali Chebou, candidat unique du MNSD, est élu président de la République du Niger avec 99,5% des suffrages. C'est un mandat de 7 ans qui démarre.
Je jure solennellement devant le peuple de respecter et de faire respecter la charte nationale, la constitution et les lois de la République, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, de protéger les droits et libertés des citoyens, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, d'œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des idéaux de paix, de justice et de liberté dans le monde. L'Assemblée nationale en est témoin.
Cette élection consacre l'arrivée des civils au sein du pouvoir, même s'ils restent très très minoritaires.
Il y a trop de militaires dans le gouvernement, ou ainsi par là. Je peux dire que peut-être c'est notre uniforme qui fait grossir le nombre. Sur un gouvernement de 23 membres, il n'y a que 9 militaires. Nous n'avons que dans l'administration des préfets, des départements, 7. Mais j'ai un premier ministre, il est civil. J'ai le président du Conseil national de développement, qui est l'organe de base de cette charte, qui est un civil. J'ai toutes les sociétés d'économie mixte. Ce sont des civils qui les dirigent. Donc il ne faut pas dire qu'il y a plus de militaires que de civils, non.
Le nouveau gouvernement ne va pas bénéficier bien longtemps de l'état de grâce dont jouissait jusque-là le chef de l'État. Si Ali Chebou a choisi l'apaisement, le dialogue, il n'est pas parvenu à calmer la colère de la rue. Avec les syndicats, les rapports sont de plus en plus tendus, galvanisés qu'ils sont par le vent des démocraties parties d'Europe de l'Est qui a fait tomber le mur de Berlin et qui souffle peu à peu sur le reste du monde.
À l'instant où je vous parle, juste dehors, il y a les forces de l'ordre. Ce que vous entendez là, ce sont des vitres qui sont tombées. Et il y a de la grenade lacrymogène un peu partout, des coups de matraque. Le coup que vous venez d'entendre, c'est une grenade lacrymogène qui a été jetée dehors. C'est une intervention, ils ont investi la bourse de travail même.
Voilà une poignée de syndicalistes démagogues, égarés et coupés de leur base, voudraient semer le désordre en propageant des fausses nouvelles dans le vain espoir d'assouvir des ambitions inavouables. Ces fauteurs de troubles qui préfèrent la violence au dialogue constructif trouveront en face d'eux toute la rigueur de la loi et de l'autorité de l'État. J'ai donné des instructions au ministre concerné pour que soient prises toutes les mesures pour le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens et la continuité du service public.
L'année 1990 qui commence s'annonce particulièrement mouvementée pour le président Ali Chebou, comme nous allons le voir. On entre dans une période très délicate pour son régime. Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après le journal, pour en parler. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Cette décryptation est un outil au développement. Nous ne pouvons pas travaillé si nous ne nous avons pas fait remettre la confiance à cette population. Donc la libération des détenus politiques rentre dans ce cadre. Et je crois aujourd'hui, nous n'avons aucun détenu politique qui n'a pas été jugé sous les verrous.
Plus d'un an après son arrivée à la tête du Niger, le général Ali Chebou est parvenu, avec cette politique dite de décrispation, à diminuer considérablement les tensions politiques et sociales héritées de la période plutôt musclée de son prédécesseur Sékou Kouchné. Il est parvenu sans réelle difficulté à faire voter une constitution et à se faire élire président de la République. En peu de temps, la silhouette massive de cet homme qui traverse le pays de part en part, sans remplacer celle de son prédécesseur Sékou Kouchné, s'impose aux Nigériens pour lesquels il se déploie. Il s'engage. Il est sur tous les fronts dans ce pays où le risque de famine est permanent.
L'environnement, c'est un problème particulier qui touche mon pays. Et je sais que le président Mitterrand a l'intention de poser la question de l'observatoire du Sahara au sommet des 7. Et le Niger n'a pas attendu les bras croisés pour lutter contre la désertification. Nous avons un ministère de l'Environnement au Niger et nous déployons tous les efforts pour lutter contre l'avancée du désert et tout. Et je suis entièrement d'accord avec le président Mitterrand. Il faudrait coordonner nos actions.
Ali Chebou mène une diplomatie particulièrement active, tant avec les pays de la sous-région que ceux du reste du monde. Avec la France, il reste dans la droite ligne de son prédécesseur Sékou Kouchné.
Effectivement, je suis revenu de France, très satisfait. En ce qui concerne les négociations sur l'uranium, au moins pour le budget 89. Vous savez que le marché de l'uranium, il est tel qu'il est. Donc, nous sommes obligés de nous retourner vers nos amis, qui sont en même temps nos partenaires. S'ils ont partagé au moment du boom les bénéfices de l'uranium, il est tout à fait normal, si les cours ont chuté, qu'ils contribuent au moins à l'équilibre du budget de ces pays. Je disais donc, je suis revenu très satisfait. Les sociétés avaient préconisé de réduire de moitié ce qui nous enlevait, ce qui veut dire à nous étrangler, de réduire la production. Et vous voyez l'incidence sociale et économique que cela implique, le licenciement des gens. Donc, j'ai discuté avec le président François Mitterrand. Je dis, le Niger ne comprendrait pas qu'on ne nous enlève pas les mêmes quantités et ne comprendrait pas que la France arrête son effort de nous accorder un prix exceptionnel. Ce qu'elle a toujours fait. Et je crois que le président Mitterrand a été très sensible, m'a donné les assurances quant à l'enlèvement de ces quantités. Les négociations pour fixer les prix vont reprendre d'ici la fin du mois. Et je crois que pour cette année, nous serons sensiblement dans la même fourchette de prix et des mêmes quantités à enlever.
Du 19 au 21 juin 1989 se tient en France, à La Bolle, le traditionnel sommet des chefs d'État de France et d'Afrique qui réunit l'ancienne métropole et les pays de ce que l'on appelait son précaré. Une réunion dite de famille qui se déroule cette année-là dans un contexte mondial particulier avec notamment la chute du mur de Berlin.
Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays d'Afrique. Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible.
Cette année 1990 va être marquée pour la plupart des pays africains francophones par ce discours de François Mitterrand qui conditionne désormais l'aide de la France aux pays africains par un effort de démocratisation. Le président français, surtout soucieux de s'inscrire dans le sens de l'histoire, ne mesure pas vraiment le chamboulement que va susciter cette décision. Il vient de donner espoir à toutes les oppositions qui redoutaient la réaction de Paris en cas de contestation. Le président Ali Chebbou, qui lui aussi assiste à ce sommet, est certainement l'un des rares chefs d'État africains qui salue cette option, cette nouvelle ligne politique de Paris.
Si j'ai tenu à participer au 16e sommet des chefs d'État de France et d'Afrique, c'est parce qu'il constituait, à mes yeux, à la fois une réunion de famille et un important rendez-vous nord-sud. Les thèmes qui ont été abordés reflètent les réalités d'un monde en pleine mutation et traduisent les préoccupations des pays en développement. Nous avons en effet évoqué la démocratie et la crise économique qui frappe de plein fouet nos pays. Tous les chefs d'État présents ont admis la nécessité d'une ouverture politique. Certains se sont même déjà engagés dans cette voie. La conférence a cependant reconnu que l'exercice de la démocratie doit tenir compte des réalités et des spécificités de chaque pays. C'est un système de gouvernement qui se construit patiemment et dont la viabilité dépend largement de la santé de nos économies. Le président François Mitterrand avait d'ailleurs dit à juste titre qu'il ne pourrait y avoir de démocratie sans développement. Nos problèmes sont donc connus, les sources aussi. Cependant, il est aberrant qu'une certaine presse préfère la sensation, la désinformation et l'intoxication à la réalité des faits quand il s'agit de l'Afrique.
Le Niger ne va pourtant pas échapper à ce mouvement, à cette vague de contestation qui gagne l'Afrique à son tour.
Tension et malaise au Niger où depuis quelques jours les syndicats et les étudiants se sont engagés dans une épreuve de force avec les autorités. L'Union des syndicats des travailleurs maintient son préavis de grève générale pour le début de la semaine. À l'université, le campus est fermé suite à l'intervention hier matin de la police. Aujourd'hui à 8h était prévu un meeting organisé par 9 syndicats, aussi bien des syndicats étudiants que des syndicats des travailleurs. Meeting qui a été interdit, mais qui n'a pas empêché les manifestants de se regrouper au centre-ville sur la place où se dresse la Bourse du Travail.
À l'instant où je vous parle, juste dehors, il y a les forces de l'ordre.
Mais alors que nous allions terminer notre conversation avec ce responsable, eh bien les forces de l'ordre sont passées à l'offensive. Écoutez ce témoignage à chaud.
Ce que vous entendez là, ce sont des vitres qui sont tombées. Et il y a de la grenade lacrymogène un peu partout, des coups de matraque. Le coup que vous venez d'entendre, c'est une grenade lacrymogène qui a été jetée dehors. C'est une intervention, ils ont investi la Bourse de Travail même.
Comme vous avez pu l'entendre, l'esprit de dialogue n'était pas au rendez-vous ce matin à Niamey. D'ailleurs, hier soir, dans une allocution radio-télévisée, le chef de l'État, le général Ali Seibou, a clairement mis en garde les syndicats qui oseraient enfreindre la loi.
Voilà une poignée de syndicalistes démagogues, égarés et coupés de leur base, voudraient semer le désordre en propageant des fausses nouvelles dans le vain espoir d'assouvir des ambitions inavouables. Ces fauteurs de troubles qui préfèrent la violence au dialogue constructif trouveront en face d'eux toute la rigueur de la loi et de l'autorité de l'État. J'ai donné des instructions au ministre concerné pour que soient prises toutes les mesures pour le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens et la continuité du service public.
Si Ali Chebbou a choisi l'apaisement, le dialogue, il n'est pas pour autant parvenu à calmer la colère de la rue. Avec les syndicats, les rapports sont de plus en plus tendus, galvanisés qu'ils sont par le vent de démocratie parti de l'Europe de l'Est qui a fait tomber le mur de Berlin.
Analysant les résultats des travaux de ce comité et conformément aux orientations déjà fixées par le CESAN, j'annonce aujourd'hui notre option pour le multipartisme afin de permettre une meilleure manifestation des opinions et des sensibilités qui traversent notre pays. À cet effet, les projets d'amendement de la Charte et de la Constitution seront incessamment soumis aux institutions nationales qui les apprécieront et détermineront les modalités de leur adoption. Elles auront également à examiner et approfondir les suggestions pratiques faites par le comité ad hoc pour la mise en œuvre des changements envisagés, en particulier l'opportunité de la tenue d'une conférence nationale après la création effective des partis politiques. En tout état de cause, le multipartisme au Niger devra non seulement se réaliser dans le respect strict de nos textes fondamentaux, mais il devra également s'inscrire dans un cadre juridique précis garantissant sa viabilité. Il devra surtout être précédé de campagnes d'explication en profondeur afin que nos compatriotes en saisissent le sens et la portée.
Acculé, bousculé, Ali Djebou ne peut que se plier aux exigences de la rue. Comme le Bénin avant lui, le Niger, où vient d'être adopté le multipartisme, va sacrifier à son tour au rituel de la conférence nationale souveraine. Le président Ali Djebou a cédé face à la rue. Et désormais, c'est dans ce cadre que l'ensemble du peuple va revisiter son histoire, va aplanir ses différends. Du moins, c'est le but, l'objectif visé. C'est Ali Djebou qui ouvre la conférence nationale souveraine.
Les décisions que vous prendrez engageront notre peuple et notre pays. Vous en assumerez la responsabilité devant ce peuple qui attend, devant l'extérieur qui observe et devant l'histoire qui jugera. Sachez que pour le reste, rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts. Le Niger demeure. C'est en fonction de ses intérêts, de ses seuls intérêts, que nous devons tous agir.
À partir de ce 29 juillet 1991 et jusqu'à la fin de l'année, le Niger va vivre au rythme de ce grand déballage, de cet immense règlement de compte où se succèdent à la tribune de l'Assemblée civiles et politiques. Tous les acteurs de la vie politique du Niger depuis les indépendances. Même Mamadou Oumarou Dibonkano, auteur de plusieurs tentatives de putsch, dont celui contre son ami Kountché, a été invité pour la circonstance.
Donc, je suis Amadou Oumarou Dibonkano, dont les noms vous a fait beaucoup rire ici et beaucoup pleurer. Mesdames et messieurs, vous allez connaître complètement le coup d'État. Ce que je vais vous demander, monsieur le président, car c'est votre rôle de prévenir à mes amis, du moins ex-amis des officiers, qu'ils cessent de courir à gauche, à droite. La vie, c'est comme ça. Un jour, on est chasseur, un jour, on est la biche. Monsieur Bonkano est un spécialiste de complot. Tout ce que je y sort de complot, tout.
Pendant 98 jours, tout va y passer. Même le président Ali Djebou est invité à s'expliquer sur des exécutions sommaires qui ont été commises par les forces de sécurité. On l'accuse d'avoir donné des instructions pour ne pas faire de prisonniers. Avec en face de lui, le capitaine Maliki, qui le met très directement en cause.
L'histoire entre le capitaine Maliki et le général Ali Djebou date de longtemps. S'il vous plaît, je fais partie des officiers qui ont refusé l'élection de Ali Djebou et sur ce, il m'a mis sur table d'écoute. Il est là, présent. Ça, c'est une chose. Ali Djebou m'a dit qu'il a téléphoné une seule fois. Il m'a téléphoné trois fois. Le 6, comme je l'ai dit, dans la nuit du 6 au 7, à 23 heures, c'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, voilà mon général, on a fait des prisonniers. La consigne reste ou ne reste pas. Il m'a dit, il faut les tuer. Il est là présent. Et il a dit que pour le décès du vieux Abou Moumen, c'était un montage. Effectivement, il y en a qui ont monté pour pouvoir me sauver. J'ai refusé. J'ai décidé de dire la vérité. C'est moi qui ai logé donc la balle dans l'oreille. Et ça, je le regrette actuellement. C'est ça que j'ai sur la conscience. Mais le reste, il n'a qu'à prendre ses responsabilités avec le chef d'état-major. Ça, je ne la prendrai pas ici. C'est lui qui m'a dit de tuer. Je vous le dis, c'est ça la vérité.
Le président Ali Djebou, qui assiste de la tribune à la scène, lui répond sans détour.
Je crois que ce n'est pas le lieu ici de s'abaisser jusqu'à un certain niveau. Je peux vous dire simplement, je suis écœuré par l'attitude de Malik. Malik, que vous avez tous entendu le jour de sa déclaration, qui disait « j'ai dit de les massacrer » et qui a dit qu'il a logé une balle dans la tête, c'est pas parce qu'il cherche à sauver sa tête, et j'ai tous les renseignements, c'est hier à 21h qu'il a été manigancé et fait une déclaration là-bas. Il dit que c'est la seule fois à voir le chef de l'État et le chef d'État-major. Vous croyez que je ne suis pas renseigné ou quoi?
Le Niger va vivre au rythme de ces grands déballages, parfois glauques, il faut le reconnaître, pendant 98 jours. Certains militaires mis en cause et d'autres qui ne supportent pas les attaques contre le régime militaire, notamment contre le général Kountché, envisagent même de mettre un terme par la force à ce que Ibrahim Barré Maïna Sara appellera une chamaillerie de gamins. À ce moment-là, si j'avais disposé de la compagnie de parachutistes, je serais descendu sur le palais des congrès pour mettre un terme à ce chahut de gamins irresponsables. Ces propos sont ceux du colonel Ibrahim Barré Maïna Sara. Mais comment Ali Chebou, qui dispose de cette armée, qui pourrait sonner la fin de la récréation, va-t-il gérer cette période particulièrement critique? Son régime va-t-il survivre à cette conférence nationale? On en parlera la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Les mois qui vont suivre au cours de cette année 1991 s'annoncent décisifs. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.